Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19, merci d'être avec nous. On va revenir ce matin sur l'argent de la drogue, les stratégies mises en place pour le recycler, le blanchir avec ce livre « Les narcos français brisent l'omerta » aux éditions Albin Michel. Et pour en parler, bien entendu, l'auteur Frédéric Ploquin est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste et écrivain et spécialiste des affaires de police.
Oui, Frédéric Ploquin, alors ce qu'on apprend dans votre livre, c'est une plongée au cœur du trafic de drogue, mais c'est pas dans les grandes multinationales à l'extérieur, là c'est sur
chez
notre
nous.
Territoire, même s'il y a des liens, on va le voir aussi avec la Colombie. Est-ce que vous-même, parce que ça fait quand même 30 ans que vous suivez toutes les affaires de police, de délinquance, de trafic, est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez découvert en allant sur le terrain? Parce qu'il y a des témoignages complètement hallucinants sur ce qu'on vit en fait aujourd'hui, quoi.
Bah, ce qui m'a le plus surpris d'une certaine manière, c'est la facilité avec laquelle j'ai pu faire parler tous les acteurs de ce marché colossal qui pèse aujourd'hui autour de 4 milliards d'euros par an en France. Que ce soit du plus petit là qui fait le guetteur en bas de sa tour, jusqu'à celui qui
a entre 11 et 12 ans
à la tonne, qui a une douzaine d'années, jusqu'à celui qui brasse le produit à la tonne. Et la plus grande surprise, c'est que d'une certaine manière, ils me parlent comme si c'était tout à fait naturel leur métier. Enfin, en fait, ils décrivent un commerce de l'intérieur comme si ils sentaient que c'était quasiment un commerce, je dirais pas légal, mais en fait, ils sont très sûrs d'eux. Mmh. Et cette façon d'être sûrs d'eux, peut-être d'ailleurs de jouir d'une forme, enfin de croire jouir d'une forme d'impunité, parce qu'ils croient qu'on les atteindra jamais, me fait penser que, en fait, d'une certaine manière, ces trafiquants de stupéfiants ont gagné la bataille. Mmh. Et que nous avons perdu la bataille contre la drogue. Je dis ça, je pèse mes mots, mais si vous voulez, la façon dont ils assument leur place, leur rôle, je veux dire, ils me décrivent les rouages d'une économie. Ils expliquent comment ils font leur comptabilité, comment on progresse dans la hiérarchie sociale, je veux dire, comment on monte en grade.
Oui, parce qu'il y a une sorte d'ascenseur social et des statuts.
Absolument.
En fait.
Et quand vous vous retrouvez comme ça face à un jeune de 16 ans qui vous explique qu'il a commencé à 12 ans, que en fait, il a commencé parce qu'il a vu ses frères commencer à brasser un peu d'argent, que lui, il ne pouvait pas s'acheter ce qu'il voulait. Parce qu'il y a, derrière, il y a quand même le désir de consommer à un moment donné du luxe. En fait, les trafiquants sont des petits bourgeois comme les autres, au fond.
Ils le deviennent, quoi.
Non, mais dans leur raisonnement, sauf que ce sont des petits bourgeois qui n'ont aucun, on va dire, rien ne les arrête.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui les ennuie sur leur trajectoire, ils réfléchissent pas du tout en termes de bon allez on va discuter, je vais éventuellement prendre un avocat si ça se passe mal. Ils réfléchissent immédiatement en termes de rapport de force. Donc c'est la culture Escobar d'une certaine manière qui s'est répandue comme ça sur le territoire. Et aujourd'hui la différence entre, parce que ça fait effectivement une trentaine d'années que j'observe l'évolution de ce marché de la drogue qui est aujourd'hui devenu le cœur nucléaire du crime en France, c'est la drogue. Et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne s'y est pas trompé. Il a fait de la drogue, je veux dire, l'ennemi numéro un. Et je pense qu'on en reparlera lors des prochaines présidentielles. Parce qu'en fait, c'est le cœur de l'insécurité est là, au fond.
Oui.
Parce que c'est la dernière manne de la criminalité organisée.
Oui, mais c'est une criminalité, vous parlez d'Escobar. Escobar, il achetait des maisons aux plus pauvres, ce qui n'est pas le cas. Eux, ils partagent
rien du tout. Escobar a su jouer aussi et gérer son image. Et eux aussi, d'une certaine manière, ils essayent de s'acheter une image. En fait, ils ont créé toute une culture autour d'eux. Parce que la drogue, c'est pas juste comme ça quelque chose qui, à un moment donné, va induire des problèmes de santé sur les gens qui la consomment. C'est vrai que la question de la santé existe, mais derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que ça induit une pollution sociale, ça induit des problèmes dans certains quartiers qui sont pris en otage par les trafiquants, ça induit de la corruption dans les services de l'État, police, gendarmerie, douane. Ça induit un rapport à l'argent qui est complètement perturbé, complètement faussé. Et si vous voulez, quand vous vous retrouvez face à un jeune qui vous dit « Bah oui, mais j'ai commencé 100 euros par jour. Aujourd'hui, j'ai 16-17 ans, je gagne 3000 euros, évidemment sans impôts, parce que vous n'avez pas payé les taxes et les impôts. Et puis mon objectif, mon but, c'est quand j'aurai 20 ans, de remplacer mon boss, parce que le boss, local, ouais. Il a 20 ans, hein, c'est un peu ça. C'est... Les super boss, les patrons des multinationales de la drogue, ils ont 30 ans.
Ouais.
Les boss sur le terrain, ils ont 20 ans. Et leurs petites mains ont 12 ans, donc mineurs, entre 12 et 16 et 18
Alors,
ans. Ils échappent globalement
c'est
à la
vrai,
justice.
Il y a un recrutement sur le terrain, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on leur dit... Et puis, on leur fait passer un peu des tests, hein, pour montrer
Absolument.
Que... Ouais, c'est... Racontez-nous
bah,
ça.
Il faut...
être un homme.
Ouais. Il faut être un homme, c'est ça, d'une certaine manière. Et ça, c'est aussi toute la culture de la virilité qu'il y a derrière dans ces quartiers, dans ces secteurs. C'est que... Et pour devenir un homme, il faut savoir se battre. C'est la première donnée, quoi. Il faut savoir se bagarrer.
Parce que
se
ça
bagarrer.
Passe par la violence, quand même.
Ça passe par la... Au départ, ça passe par la violence. Et on s'impose d'abord par la violence. Après, les plus malins survivent et les moins malins finissent à la cave avec trois coups de couteau, de calache ou de ce que vous voulez. Parce que c'est quand même une jungle, hein, c'est pas...
Ouais.
C'est-à-dire, je dis ça ressemble au commerce ordinaire, sauf que c'est la jungle. C'est l'ultra-libéralisme poussé à son extrême, la drogue, où vous allez buter celui qui vous dérange.
Juste la phrase que ouais. vous citez dans le livre de Chris qui dit « c'est pas le quartier qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le quartier ».
Absolument, et ça c'est celui qui me dit ça, il a 16 ans et demi. 16 ans et demi, je dis. Voilà, pour moi voilà, face à moi, ouais. j'ai l'impression d'avoir un enfant, et en fait j'ai quelqu'un qui se présente comme un patron de supermarché quasiment déjà dans sa tête. Et puis il commence à investir parce que voilà, je me suis aussi intéressé dans. Je trouve que c'est un pan entier qu'on
oublie
en général, c'est
l'argent, le blanchiment de l'argent en quelque sorte.
Absolument.
Derrière, quoi.
Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte en écoutant ces acteurs que l'argent de la drogue était partout, et peut-être en bas de chez vous, en bas de chez nous, l'appartement,
le petit restaurant qu'on voit à côté,
il y a pas grand monde,
les chauffeurs VTC, l'organisation
pas,
parfois,
pas les chauffeurs,
pas les chauffeurs en tant
mais les sociétés,
certaines sociétés, bien sûr,
de voitures de luxe, les ongleries, les salon de massage, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, moi j'ai regardé la drogue par les deux bouts, c'est-à-dire la question de de l'acheminement vers la France du produit qu'on va consommer, donc c'est des tonnes et des tonnes, il y a 40 tonnes de cannabis qui rentrent chaque mois en France, il faut bien qu'elles passent quelque part, mais de l'autre côté, à l'inverse, je me suis aussi intéressé à cette question, c'est qu'une fois que vous avez importé vos 40 tonnes de cannabis, vous vous retrouvez avec un poids et un nombre de billets de banque absolument considérables qui vont remplir votre salle de bain.
Ouais.
Donc qu'est-ce que vous... Même plus que ça. Et donc il y a un volume là qu'on ne se rend pas bien compte de ça.
Oui,
il y a un volume.
Il ne faut pas se faire repérer, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer ça. Alors qu'est-ce
vous,
que...
Okay, vous, voilà. vous avez un volume considérable comme ça de billets qui vous ne pouvez pas manipuler aussi facilement que ça.
Ouais.
Et donc il y a un problème de retour...
Les réinjecter.
De réinjecter l'argent. Donc il y a une partie de l'argent qui part effectivement dans l'économie ultra-locale, qui est consommée localement dans les commerces, qui permet de vivre, tout simplement. Après, il y a une partie qui va chercher à commencer à se blanchir. C'est de l'argent sale. Il faut le rendre un peu gris, puis ensuite, en espérant qu'il soit blanc un jour. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des millions dans sa salle de bain si vous ne pouvez pas vous en servir. Donc l'idéal, c'est effectivement d'acheter un petit pas de porte, un petit commerce.
Oui, mais vous l'achetez comment font-ils précisément? Parce que là, les auditeurs doivent se dire, oui, mais forcément, cet argent, il y a une partie...
Il faut emprunter.
Oui, il faut emprunter.
Par exemple, il faut emprunter. Et puis après, vous déclarez simplement un chiffre d'affaires bien supérieur au chiffre d'affaires réel, ce qui vous permet de réinjecter vos espèces. C'est pour ça que ce sont des petits commerces, parce qu'il faut des commerces où on paye en espèces. Vous allez acheter votre kebab en billets, a priori pas trop en carte bleue encore. Pareil pour les ongleries, pareil pour... Bon, ce sont des commerces qui sont des pompes à aspirer les espèces. Ensuite, vous les déclarez légalement, donc elles rentrent dans le circuit. Et puis, bon, ça c'est le bas, c'est le bas de l'échelle. Après, vous avez un certain nombre de gars un peu plus costauds qui eux brassent, importent la tonne, la cocaïne à la tonne de la République dominicaine,
Colombie,
indirectement de Colombie. Il y a des zones de rebond, notamment les Antilles françaises. Et là, vous avez notamment la technique très moyenâgeuse, mais c'est le blanchiment, c'est un mélange de techniques moyenâgeuses et ultra modernes, dites du saraf. Le saraf, c'est un personnage, il peut être généralement berbère, marocain, mais les Pakistanais sont assez bons là-dedans aussi. Les Chinois savent faire aussi. En gros, vous allez dans une échoppe avec votre montagne de billets et l'argent ne va pas sortir du pays. C'est-à-dire vous donnez vos billets à quelqu'un, à un commerçant, il les compte devant vous, il téléphone au Maroc, au Pakistan, en Inde, je ne sais où, et là-bas, il y a quelqu'un qui restitue la même somme à la personne à qui vous les devez. Et donc l'argent ne bouge pas physiquement. Ça, c'est très, c'est voilà, c'est
ancien.
Et au-dessus de ça, vous avez, je veux dire, faut vous parler tout à l'heure des paradis fiscaux. Effectivement, au-dessus de ça, ils savent très bien ceux qui brassent là pour le coup des millions, qui peuvent aller dans une banque dans les Caraïbes, qui peuvent aller à Hong Kong, qui peuvent aller investir
même,
à Dubaï.
Ça passe même. On va le voir dans un instant. On va poursuivre la discussion. Même dans des banques françaises. Voilà. Hein, bah, en fait aussi.
Particulièrement dans les périodes troublées économiquement et socialement. En fait, le crime aime les périodes troubles. Oui. Le crime, intrinsèquement, le crime aime la misère, le crime aime les quartiers fragiles.
Parce qu'on est moins regardant.
Parce qu'on est moins regardant. Et vous souvenez-vous de 2008, oui. 2008, grande crise économique. Les banques, pour se sauver, à un moment donné, ont fermé les yeux, tout simplement, pour absorber la manne venue du trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis, notamment des grands cartels mexicains. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de banques ont retrouvé l'équilibre. Donc, à un moment donné, cette crise qui dure aujourd'hui va être, il faut le savoir, favorable aussi au crime. Parce que, c'est-à-dire, quand vous vous retrouvez à sec, quand vous avez des restaurants qui ferment, s'il y a quelqu'un qui frappe à votre porte, qui dit « Attendez, moi, je peux sauver votre commerce, là, j'ai de quoi faire, regardez. » Forcément, vous craignez de devoir tout perdre, eh bien, vous allez être tout simplement moins regardant.
Et la suite, dans un instant, vous nous appelez 0826-300-300 si vous voulez poser des questions à Frédéric Ploquin qui est avec nous pour ce livre « Les narco-français brisent l'omerta » aux éditions Albin Michel. À tout de suite, 9h30.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, merci d'être avec nous pour ce livre très intéressant, hein, Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Albin Michel. Avec nous, Frédéric Ploquin pour en parler, journaliste et écrivain et spécialiste des affaires de police. Vous êtes nombreux à nous appeler ce matin au 0826-300-300 avec Claire qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci de m'exprimer, et vous êtes la radio qui a du cœur.
Merci beaucoup
Alors,
Claire.
Alors, dans le quartier... depuis plus de 20 ans, et dans la rue où j'habite, il y a ce commerce.
Vous êtes dans les Yvelines, Claire.
Oui, mais on ne dira pas où.
Voilà. J'ai fait partie d'un conseil de quartier il y a 15 ans. En tant que membre et avec deux autres personnes, nous avons alerté les élus. Bah, rien n'a beaucoup bougé. J'ai eu un dealer squatter en dessous de chez moi pendant un an. Il a fallu que deux élus courageux secouent le bailleur. Ils sont connus des services de police. Le bailleur nous dit qu'il faut appeler la police. Quand la police peut se déplacer, ben vous vous doutez bien qu'ils sont partis. Et lors du confinement au mois de mars jusqu'au mois de mai, ils étaient toute la journée dehors avec un système de klaxons de voiture pour faire leur vente. Voilà. Et le maire fait ce qu'il peut. Les policiers, ils sont découragés parce que de toute façon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais ça pourrit le quotidien des gens corrects. Et moi, je fais partie de ces gens, comme l'a très bien exprimé Carl Olive. Je n'ai pas les moyens de déménager. Voilà. Et ma santé est touchée. Et là, nous appréhendons avec les habitants quand vont revenir les beaux jours. Voilà. Parce que là, c'est le soir. Ça va de 22h jusqu'à 1h du matin, voire 2h du matin. Voilà.
Et on ne peut pas... Restez avec nous, parce que Frédéric Ploquin décrit tout ça dans son livre, hein, Frédéric Ploquin. Sur la première chose, évidemment, ça se passe souvent en bas des appartements,
des immeubles.
Des immeubles, hein. C'est les images qu'on voit parfois dans des films, dans des séries, sauf que c'est véritablement ça, quoi, dans la réalité.
C'est pour ça que je répète que la drogue, c'est vraiment une question qui nous concerne tous. Pour cette raison-là, c'est à cause justement de l'impact social que le marché, que le trafic a sur notre vie quotidienne. Moi, je suis allé dans des quartiers, il y a différentes sortes de quartiers. Il y a des quartiers qui sont, depuis trois générations, sous l'emprise de dealers qui se refilent le point de vente. Ils appellent ça le four, entre eux, le four. Ça dit tout, hein. C'est comme le boulanger qui usine tous les jours. Hein. Ouais. Le four, ça doit tourner, quoi. Donc, vous avez des quartiers qui sont sous emprise depuis trois ou quatre générations. Donc, les gens se sont habitués, mais c'est pas parce qu'ils se sont habitués qu'ils n'en souffrent pas. Et moi, il y a des quartiers où je suis allé. Quand je m'installe dans un quartier, je vais pas seulement voir les trafiquants ou les policiers, parce que je vais voir les deux côtés, mais je vais aussi voir les mamies qui vivent dans la barre et qui, alors ça a des impacts sur la santé.
Claire,
il y a des femmes qui dorment plus. Il y a des gens qui dépriment.
Et sur le prix de l'immobilier, il y a des gens qui ont acheté des appartements il y a des années qui ne valent plus rien.
En plus de cela, mais au niveau de la vie quotidienne, ça peut pourrir la vie. Et à côté de ça, il y a ce que vient de décrire cette dame, c'est-à-dire des quartiers où c'est pas installé forcément depuis des générations, où ça commence tout doucement, Et la force des trafiquants, c'est de s'installer dans un quartier à bas bruit. Donc on ne fait pas très très attention. Au départ, ça commence tout doucement, comme ça. Je suis allé notamment dans un quartier de Rennes, un quartier plutôt bourgeois, enfin petit bourgeois, comme ça, tranquille, calme, avec des espaces verts, etc. Et les gens m'ont décrit comment sur 5 ou 6 ans, une situation peut totalement se dégrader, mais sans que la police ne s'en affole, parce qu'au départ, c'est juste, bon, ils squattent le banc. Un peu de bruit la nuit. Oh merde, on ne peut plus aller faire de barbecue dans le square parce que là, il y a un peu trop de deal, etc. C'est plus très sécure. Oh merde, il y a les vélos qui commencent à être volés dans les caves. Donc il y a une espèce de... L'insécurité, elle monte à bas bruit, comme ça, tout doucement. La police ne peut pas, au départ, mettre tous ses moyens là-dessus parce qu'ils ont des choses plus sérieuses, entre guillemets, en tout cas, à leurs yeux.
Plus avérées.
Aux yeux de celui qui habite le quartier, son problème est forcément le plus sérieux. Mais la police, elle n'est pas non plus, c'est pas Shiva, quoi. Elle n'a pas 15 000 bras. Il faut qu'elle gère, qu'elle regarde si on porte des masques, qu'elle regarde si on sort après 18 heures. Elle a plein de boulot, plus sans parler du terrorisme et des autres formes de criminalité. Donc la police ne peut pas, ou la gendarmerie d'ailleurs, ne peuvent pas tout régler. Et donc il y a beaucoup de gens dans ce pays qui se sentent comme ça en situation d'abandon. Ils ont l'impression que les autorités ne réagissent pas comme il faudrait. La mairie, pareil, elle se déploie, mais la mairie, elle n'a pas de moyens. Le bailleur, il ne peut pas comme ça du jour au lendemain intervenir. Et donc des quartiers se laissent... Après, il y a des gens qui s'organisent, il y a des gens qui montent des associations, il y a des gens qui font des rondes, entre guillemets. Mais bon, voilà, qui prennent en main leur vie de citoyen.
Oui, j'imagine... Claire, vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
J'imagine que c'est difficile d'ailleurs de réagir, parce qu'en même temps, on peut être... menacé physiquement par ces trafiquants.
Je ne peux pas dire, mais j'ai eu des représailles.
Bon. Et oui voilà, c'est ça.
C'est ça, ce ne sont pas des...
Et puis, ce qui est un peu affligeant, et c'est d'ailleurs même dans d'autres domaines que vous avez évoqués ce matin, c'est, je dirais, le manque de courage des gens, quoi. Voilà, il y a une forme de lâcheté, et puis les gens, on a peur, et puis voilà, c'est...
On se recroqueville, et puis on n'a pas envie, on ferme les yeux, quoi, en quelque sorte.
Oui, c'est pour ça qu'en ce moment, tout éclate dans beaucoup de domaines, parce qu'à force d'avoir fermé les yeux, on en est là, voilà.
C'est
vrai. Oui, et puis en plus, ils ont effectivement ces acteurs du trafic, ils utilisent absolument tous les moyens, ils peuvent vous crever au pneu un jour, et puis ça peut monter comme ça, en puissance au fur et à mesure.
Jusqu'à l'attaque physique.
Jusqu'à l'attaque
l'incendie aussi de la cage d'escalier. Même si ils ne s'attaquent pas à ce qui peut leur convenir quand même.
Oui, mais ils vont aussi jusqu'à... Dans tous ces quartiers-là, il y a aussi des gens fragiles qui tombent entre les mains des trafiquants. Mais malgré eux, c'est pas un choix. Et qui vont se retrouver à jouer, entre guillemets, ce qu'ils appellent entre eux les nourrices. Chaque dealer, chaque trafiquant a une nourrice, ce qu'il appelle une nourrice. Ça peut être un homme ou une femme. Et c'est quelqu'un qui, a priori, est fragile économiquement, ou physiquement, ou psychologiquement, et qui, à un moment donné, à qui on va imposer de prêter une pièce de son appartement. Après, il va devoir donner les clés de son appartement, et après, il va voir les jeunes rentrer à tout moment dans l'appartement, qui va servir à entreposer soit le produit, donc cocaïne, cannabis, herbe, ce que vous voulez, soit l'argent du produit. Parce que ce n'est pas au même endroit, si possible, parce que comme ça, s'il y a une nourrice qui se fait, entre guillemets, démasquer, eh bien, écoutez, vous avez toujours une autre nourrice qui a gardé une partie des choses. Et ces gens-là, eux, ils vivent bien souvent sous la terreur. Je veux dire, ils sont à moins d'être victimes du syndrome de Stockholm et de tomber amoureux de ceux qui vous prennent en otage, mais la plupart vivent plutôt... Dans la terreur.
Ils sont coincés, quoi.
Ils assistent au truc, au spectacle où ils viennent découper les barrettes de shit sur la table de la cuisine, préparer leur paquetage, leur petit paquet, etc. Donc ça, à ce niveau-là, on a vraiment, c'est la peur, la violence qui fait que vous finissez par céder. Oui. Et ça, c'est une situation aussi assez dramatique.
L'un des policiers que vous avez, enfin qui témoigne, dit que la guerre est perdue face à l'immensité de la tâche.
C'est ça qu'on se dit, c'est que quelque part c'est un marché hors de contrôle, c'est-à-dire que ça draine tellement d'argent, ça permet à tellement de quartiers de survivre, surtout là en période de crise, qu'on a totalement perdu le contrôle. Mais moi je salue, dans la moitié de ce livre je fais parler des trafiquants, et dans l'autre moitié je raconte toute l'histoire de la lutte contre les stupéfiants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je la fais raconter par les policiers eux-mêmes. Et donc, il faut quand même se rendre compte qu'on a des policiers qui, notamment dans les brigades anticriminalité, tous les matins, vont au boulot, se lèvent et se disent « Bon, allez, je vais aller courir après les petits vendeurs, après les petits revendeurs. » qui font des planques dans des quartiers, dans des caves pourries pour arriver à les coincer, qui les coincent. Qui... Donc il faut quand même saluer cette espèce de courage parce que c'est Sisyphe, hein. C'est tous les jours, tu vas ramener la même
tous
prise.
Tous les jours, et puis ils ont l'impression.
Et puis parfois les mêmes.
Oui, voilà, parfois les mêmes, ils les arrêtent qui... et il y en a 10
qui arrivent. Il y en a un qui me raconte clairement, je trouve son témoignage intéressant, il me dit bah, moi, ce petit jeune-là, ça fait 5, 6 fois, 7 fois que je le prends. Bon, il avait 12 ans la première fois, maintenant il en a 16. Je veux dire, à chaque fois, évidemment, comme il est mineur, comme il se débrouille pour jeter le produit, qu'il court vite, etc., ben on s'épuise à le chercher, on le ramène, et puis évidemment, il sort. Et à un moment donné, me dit ce fonctionnaire, à un moment donné, mais la seule envie que j'ai eue, c'est de faire comme si c'était mon fils et de lui foutre trois claques, trois baffes. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui,
c'est pas possible.
Non, a priori, vous ne pouvez plus.
Un dernier commentaire, Claire, ou pas sur ce que vient de dire Frédéric.
Vous avez bien résumé les choses.
Ouais,
voilà.
Ouais. Non, bon. Mais situation extrêmement difficile. Oui. Merci d'avoir témoigné.
Merci.
Bon courage. Bonne journée.
Oui, absolument. Allez, on va poursuivre dans un instant avec un autre auditeur en ligne et vous, Frédéric Ploquin. On va revenir en détail sur votre livre que je trouve évidemment passionnant. Il n'y a pas que moi, Cécile aussi et vous merci. Aussi en le lisant. On se retrouve dans un instant.
À tout de suite, 9h41.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
À 9h44, un bon petit bouquin pour vos soirées au coin du feu après 18h. Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Albin Michel avec Frédéric Ploquin ce matin. Et vos appels 0826-300-300. Et on part en Occitanie ce matin avec Thierry qui nous appelle. Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir.
Oui, Thierry.
Oui. Pour tout vous dire, à toute honnêteté, oui. J'ai pas lu ce.
Non, non, un ami vient de sortir.
Il est sorti la semaine dernière, c'est normal, vous êtes pardonné.
Et si jamais vous pouvez me l'envoyer, je serai encore.
Ah bah, écoute, on va essayer.
Alors, il est dans toutes les bonnes librairies, cher monsieur. Si on offre les livres, ça va pas.
Il faut qu'il gagne sa vie.
Écoutez, j'ai tenté, voilà.
Oui, vous avez raison.
Demandez à votre femme, à votre fils de vous l'offrir, ça lui fera un grand plaisir.
Est-ce que ce livre, comment dire, ne parle que de stupéfiants, enfin, je veux dire de problèmes de drogue, ou il y a d'autres éléments
essentiellement, comme essentiellement trafic.
En fait, c'est tout sur le narcotrafic raconté par les trafiquants eux-mêmes et par les voyous qui le combattent. Voilà, ouais, c'est ça.
Bien sûr.
C'est un livre là-dessus. Alors, entièrement.
J'aimerais également parler effectivement de l'exemplarité, ouais. Parce que quand ces jeunes effectivement sont dans la rue et qui vendent de la drogue ou autre, et bien quand on leur pose la question, ils vous disent pourquoi vous voulez que j'arrête, parce que regardez ce qui se passe ailleurs, quoi, et ce qui se passe, est-ce qu'il y a une exemplarité par exemple gouvernementale, on pourrait parler de ça, on pourrait parler éventuellement du pourquoi, du comment. Bien souvent on nous dit on traite les symptômes et pas les causes. Regardez, je fais un petit parallèle avec la médecine et ce que disait le fondateur de l'homéopathie en 1796, Samuel Hahnemann, qui disait que l'allopathie c'était une méthode antipathique et purement palliative. Combattre des symptômes en absorbant des substances pour annuler les symptômes. Cette façon de faire est depuis des décennies, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc quand on voit effectivement ce qui se passe et ce que ces jeunes vous renvoient, parce que moi je suis souvent sur le terrain donc je vois ce qu'ils disent, c'est de l'entre-soi quand on voit ce qui se passe au gouvernement, c'est pas un modèle qui est donné. Alors quand est-ce qu'on va avoir peut-être des journalistes qui vont être un peu plus, on va dire, comme votre invité monsieur Ploquin
il prend des risques.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est ça, c'est l'exemplarité quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans un gouvernement qui font tous partie de du même club élitiste du siècle, d'accord.
Thierry, je comprends, mais c'est un bon débat, mais c'est un autre débat. Là, restons quand même là-dessus. Je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que vous voudriez proposer des alternatives, sans doute un peu à la prison dure, peut-être, ou des choses comme ça, quoi.
Moi, et
en même temps, l'exemplarité. Mais Frédéric Ploquin, restez avec nous.
Je voudrais vous répondre sur la question de l'exemplarité. Elle est essentielle dans le sujet stupéfiant drogue. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, et j'ai des trafiquants eux-mêmes qui le racontent, parce que dans ce livre, j'ai pas que les jeunes trafiquants d'aujourd'hui qui parlent, j'ai aussi ceux qui ont aujourd'hui 80 balais, 60 balais, et qui ont dealé toute leur vie. Et j'ai notamment, je fais notamment parler ceux qui ont vendu de la cocaïne à nos élites. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un trafiquant là qui me raconte pourquoi, comment, à un moment donné, il a vendu de la cocaïne à, je sais pas, à Johnny Hallyday, à Jacques Chirac, à nos élites politiques et au showbiz. Et donc là, ce que je voudrais dire en termes au sujet de cette exemplarité, c'est que longtemps, la drogue a été d'une certaine
Jacques
manière...
Chirac, il n'a pas vendu directement à Jacques Chirac.
À son chauffeur.
À son chauffeur. Absolument. Et il dit, oui, d'accord.
Ah oui, non, à son chauffeur, absolument. Bon, d'accord. Ouais. Ah oui, non, c'est relativement connu.
Oui, c'est ça.
Non, d'ailleurs, je l'écris noir sur blanc et je ne serai pas poursuivi en diffamation pour ça. Ouais. Donc, si vous voulez, non, nos élites politiques et le showbiz ont, à une époque, valorisé le produit stupéfiant, et notamment la cocaïne, qui est un produit quand même qui, pour les jeunes, est assez nocif. Il faut le rappeler, qui est un produit rempli de merde, de produits chimiques. Et d'ailleurs, les dealers eux-mêmes
me
disent... Non, mais j'en ai au moins deux qui me disent, moi, tu sais, moi, je vends de la merde, je le sais, mais...
C'est de la merde, ils le disent.
L'argent. Ouais. Ouais. Je vends de la merde, je le sais, mais c'est pour l'argent. Ouais. Mais dans notre pays, pour revenir sur ce que disait cet auditeur, effectivement, en termes d'exemplarité, il y a cette grande hypocrisie qui fait que le produit est valorisé dans certains
milieux,
par certaines chansons, un maximum, en fait. Et donc là, le showbiz et les élites politiques portent une responsabilité. Parce que ça, c'était il y a 30 ans.
Oui.
Je veux dire, il n'y avait plus un acteur qui n'en prenait pas, etc. Mais 30 ans plus tard, je veux dire, la drogue, que ce soit le cannabis ou la cocaïne, elle est dans tous les recoins du territoire français. Dans le moindre petit port de pêche, vous avez des pêcheurs qui, à un moment donné, parce que c'est dur, vont taper dans la cocaïne.
Vous dites d'ailleurs que c'est l'Eldorado français. Hein,
alors là, effectivement, c'est les trafiquants. Je suis allé notamment en Colombie enquêter et je suis tombé là-bas sur des exportateurs français qui exportent la cocaïne vers la France. Et eux, ils disent effectivement, pour les Colombiens aujourd'hui, la France est considérée comme un marché porteur. C'est un marché où il peut y avoir, ils raisonnent comme des grands commerçants, comme des patrons de boîtes, en gros. Quoi. Ils disent, il y a une marge de progrès importante en France en termes de consommation. La cocaïne est très consommée en Angleterre, en Italie, en Allemagne, partout en Europe.
Oui.
Mais la France est un marché porteur. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner à ce que ce marché soit ciblé par les trafiquants.
Oui, je reviens juste sur un truc, moi je ne savais pas, sur le prix. C'est-à-dire que le prix au départ de la Colombie est le prix d'arrivée en France.
Ah bah oui, la culbute.
La culbute, elle a toujours été gigantesque pour les stupéfiants. Il faut se souvenir que les Français sont les pionniers des routes de cocaïne, des routes de la drogue. Les voyous français, dans les années 60, ont tracé les premières routes de la drogue. Il s'agissait à l'époque d'héroïne. Et c'était des braqueurs de banque. Et tout d'un coup, ils ont regardé, simplement, ils ont fait le calcul et ils se sont dit, mais attendez, là, les bénéfices que je vais faire avec l'héroïne sont tellement énormes que je vais laisser tomber les braquages de banque. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération qui a pris le pouvoir, une génération de voyous, de trafiquants, plus issus des quartiers et des cités. Et ceux-là ont compris eux aussi le prix du kilo de cocaïne à l'origine, dans le pays d'origine, donc producteur, que ce soit Pérou, Bolivie, cocaïne, il est autour de 1200 euros sur place. Quand vous arrivez en Europe, vous pouvez le revendre entre, selon le moment, la pénurie ou pas, entre 20 000 et 25 000 euros, le même kilo. Donc vous imaginez sur une tonne, je vous laisse calculer, le bénéfice que vous empochez. Donc en gros, les trafiquants, ils ont les yeux qui brillent devant leur calculette. Et c'est très simple, je veux dire, vous avez beau vous dire que vous allez devoir payer des transporteurs, payer peut-être à un moment donné des dockers, des douaniers,
les bagagistes à l'aéroport.
Des bagagistes, voilà. Vous allez laisser pour ces gens-là, qui ne sont pas payés grandement, un bagagiste, et payés un peu plus que le SMIC ou le SMIC. Je veux dire, voilà, on ne va pas désigner tous les bagagistes, mais pour gens-là, à un moment donné, la manne peut-être est trop aussi séduisante et importante. Donc vous avez beau vous dire que vous allez devoir rétribuer un certain nombre d'acteurs sur le passage, au final, il vous reste quand même un paquet de pognon.
Oui. Voilà, donc Thierry, je pense qu'on a répondu un petit peu à votre interrogation. Donc merci Thierry, qui est avec nous d'Occitanie. Alors maintenant, est-ce qu'on peut, au niveau des solutions, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent, et vous avez vu des policiers, etc., sur ce que l'on pourrait faire. Est-ce que, par exemple, on parle d'une légalisation du cannabis, est-ce que ça pourrait tarir une partie de ce trafic?
Je pense que les voyous eux-mêmes, ils vous disent, les vieux voyous, parce que les jeunes, Ils n'abordent pas la question parce qu'ils préféreraient pas qu'on légalise. Mais les vieux, ils vous disent, oh, attendez, il y en a un qui me dit comme ça, un vieux, William Perrin, vieux bandit de la, voilà, qui a tout connu et qui me dit, attendez, il n'y a plus qu'à légaliser, vous allez boucher le trou de la sécu, voilà ce qu'il me dit. Bon, ok, d'accord, effectivement, on pourrait imaginer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans certains États américains, notamment en Californie. Mais ça ne veut pas dire, j'ai regardé de près ce qui se passait depuis la légalisation en Californie, ça ne veut pas dire que ça échappe au crime.
Ouais.
En réalité, le crime peut continuer à contrôler la production. Ça, c'est un point. Mais deuxièmement, imaginez un instant ce qui se passerait en France si on leur disait, vous n'avez plus la manne du cannabis et de l'herbe. Tout ça, c'est vendu, je ne sais pas où, on va dire en pharmacie,
en officine,
à l'épicerie. Déjà, en officine, le mineur ne pourra pas y aller. Or, les mineurs consomment. Ouais. Donc, où est-ce qu'ils vont aller? Il va y avoir forcément le développement immédiat d'un marché, d'un deuxième marché parallèle. Et d'autre part, ceux qui vivent de cette manne, bah, ils iront à fond la caisse, à fond les manettes, comme ils disent sur la cocaïne, qui va encore plus se répandre. Donc,
ou d'autres drogues, d'autres types de drogues.
Ou d'autres types de drogues. C'est pas forcément... Le trafic est tellement installé dans ces secteurs que je vois pas comment, du jour au lendemain, on pourrait leur dire, voilà, les gars, on coupe les vivres, vous avez plus rien à bouffer, plus rien à faire. Plus rien... Je veux dire, quand vous allez dans un département, le département du 93 de la Seine-Saint-Denis, j'ai un commissaire de police qui a tenu ce département pendant des années et qui me dit... Oui, Frédéric, le 93 est un narco-département.
Ouais.
Il pèse ses mots, c'est quand même un commissaire de police. Narco-État, ça veut dire qu'au sommet de l'État, vous avez un mélange, on va dire, qui s'opère entre le crime et le politique sur fond d'argent bien partagé.
Oui, quand c'est ça, partagé, parce que quand vous dites couper les vivres, ce serait vraiment couper les vivres aussi d'énormément de quartiers, probablement de milliers de personnes derrière.
Quand il parle de narco-département, il veut bien dire ça, et c'est vrai qu'il y a sur le territoire, en France, des alliances qui sont passées aujourd'hui, je le décris de manière assez précise, entre des élus locaux, des trafiquants de drogue. Pourquoi ? Parce que les trafiquants de drogue tiennent les territoires où qui sont des réservoirs d'électeurs, tout simplement.
Ouais, et puis c'est la paix sociale. Et
c'est la paix sociale de l'autre côté. Mais si vous voulez être réélu, à un moment donné, il faut peut-être faire descendre les gens qui votent peu, qui votent pas, les amener dans des petits minibus jusqu'au bureau de l'électeur. Et ça, qui peut le faire ?
Voilà.
Et ceux qui ont en main les quartiers.
Oui, ce qui est terrible, on conclura peut-être là-dessus, c'est que c'est quand même aussi un milieu impitoyable. C'est-à-dire que les règles, il n'y a pas de règles, justement. C'est ce que vous dites, quoi.
Si vous regardez toutes les séries de télé consacrées aux narcos, vous allez comprendre qu'effectivement, on s'entretue assez facilement.
Ça veut dire que le lynchage de Yuri, c'est ça ?
Par exemple, le lynchage au Yuri, c'est autre chose.
C'est une guerre des bandes.
La guerre des bandes nous dit bien que ces jeunes grandissent dans une culture de l'affrontement, de la propriété du territoire, et tout ça intéresse le crime. Il faut être propriétaire de son territoire, il faut le tenir, pour le tenir, il faut avoir une réputation, il faut être fort. Donc vous allez commencer, voilà, quand vous êtes jeune, par faire vos preuves, effectivement, dans des bandes qui ne sont pas spécialement dans le deal. Mais à un moment donné, si vous êtes bon, si vous faites remarquer par les plus grands, vous allez être absorbé par cette économie, et là vous allez avoir un avenir dans...
Prometteur,
pourquoi pas.
Malheureusement.
Sauf si vous passez par la prison, laquelle prison ne leur fait apparemment pas vraiment peur. C'est-à-dire quand je les écoute, si je les écoute, c'est bon, voilà, ça fait partie du cursus, c'est pas très grave. Et puis même quand on est en prison, on en profite pour nouer de nouveaux contacts, des numéros de téléphone on récupère le numéro de téléphone de Mexicains, de Colombiens qui pourront servir plus tard. Non, enfin, la prison, honnêtement, ce n'est pas non plus.
Ouais, c'est tout un circuit.
Hein, quelque chose qui les effraie.
En tout cas, merci. C'est ce que vous décrivez, cet argent, les stratégies qui sont mises en place et des organisations qui fonctionnent comme des grandes multinationales qui sont très organisées. Et là, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on part, évidemment, du petit chauffeur, celui qui est en train de surveiller. Il y a beaucoup d'ailleurs de termes
bicravé,
c'est
bicravé.
Ça.
Bicravé. Ça veut dire dealer.
Ça, c'est un terme gitan. Manouche, voilà, c'est ça, exactement.
Ça veut dire quoi déjà ?
Vendre, dealer, en fait.
Un bon pavelon, etc., un bon plan. Il y a énormément de termes. Donc, on va du terrain au recyclage et au blanchiment.
Et
aux grandes banques. Livre très complet, Frédéric Ploquin, Les narcos français brisent l'omerta, c'est aux éditions Albin Michel.
Merci à vous et bonne journée à vous.
Achetez-le, c'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on continue, bien entendu, Sud Radio. Radio Hélène Darroze et Michel Sarran seront les invités de Valérie Expert et Gilles Ganzmann.
Et puis André Bercoff ce midi, qui se penchera sur un livre autour de l'URSSAF, un cancer français. C'est avec François Taquet qui vient de rédiger en fait ce livre, particulièrement intéressant également, donc à la mi-journée sur Sud Radio.
Et nous, on aura le plaisir de vous retrouver demain matin. Passez une belle journée. Salut, à demain.
Ciao, ciao.